Le journal de Christelle Robière. Bonjour Christelle.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une ce matin, cette course contre la montre lancée contre le variant Omicron. Les pays se ferment les uns après les autres, multiplient les tests. En France, toute personne qu'à contact d'une autre, testée positive à ce variant, devra être isolée même si elle est vaccinée. Les autres titres de votre journal.
Un féminicide qui aurait dû être évité. Une femme a été tuée à coups de couteau par son ex-compagnon à Épinay-sur-Seine. Elle n'avait pas sur elle son téléphone, grave danger, tout simplement car elle ne savait pas que l'homme était sorti de prison. Et puis Osez Joséphine, Joséphine Baker, la perle noire du cabaret, entrera au Panthéon mardi, une femme engagée dans la lutte anti-racisme et encore plus dans la résistance.
Notre invité à 8h20 ce matin, invité du grand entretien, Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement.
France Inter.
Omicron, ce nouveau variant plus contagieux détecté en Afrique du Sud, menace déjà le monde. Il a été repéré dans de nouveaux pays, hier encore en Allemagne, en Italie, en République tchèque. En France, les autorités prennent les devants. Désormais, toute personne qu'à contact est testée positive devra être isolée, même si elle a été vaccinée, ce qui est inédit. Et il faut séquencer d'urgence ce variant, Sophie Bécherel.
Détecté pour la première fois en Afrique du Sud, le variant est déjà présent chez plusieurs de nos voisins. Selon toute vraisemblance, Omicron est sûrement déjà en France. Mais c'est d'autant plus difficile à savoir que les tests rapides actuels ne sont pas en mesure de l'identifier rapidement. Ni les tests antigéniques, ni les PCR. Il faut séquencer pour avoir la réponse. Or, depuis plusieurs semaines, on séquençait moins, car le variant Delta est hégémonique. Il va donc falloir relancer la machine et se remettre à séquencer massivement au niveau national. Jamais depuis le début de la pandémie, un tel variant n'était apparu. Celui-là a 32 mutations sur la protéine Spike, dont 10 précisément à l'endroit où le virus s'attache aux cellules de l'hôte qu'il infecte. Parmi ces mutations, certaines sont connues. L'une d'elles accroît la transmissibilité. D'autres pourraient avoir un impact sur l'efficacité de la réponse immunitaire, dit Santé publique France. Quant à l'effet combiné de toutes ces mutations, il est encore à l'étude. Voilà pourquoi le principe de précaution est appliqué. En pleine reprise épidémique, l'idée et de limiter les risques de surinfection, d'où la décision d'isoler les cas contacts d'une personne qui serait positive, et ce, même si ces cas contacts sont déjà vaccinés.
Et le Conseil scientifique tiendra une conférence de presse demain sur Omicron. Extrême prudence de rigueur aussi en Grande-Bretagne. Boris Johnson a annoncé hier le durcissement des règles sanitaires pour entrer dans le pays, où deux cas ont déjà été détectés à Londres. Laura Calmus.
Passer le week-end à Londres redevient compliqué. Il faudra désormais faire un test PCR 2 jours après son arrivée et s'isoler jusqu'à l'obtention du résultat. Une mesure qui concerne tous les voyageurs, même vaccinés. Les vols de la quasi-totalité des pays d'Afrique australe ont été suspendus. Le Premier ministre a également rendu obligatoire le port du masque dans les magasins et les transports en commun et mis aussi sur la vaccination et la dose de rappel avec une campagne qu'il veut accélérer. Les Britanniques commencent à s'inquiéter. Ils se souviennent de l'an dernier et des fêtes de fin d'année confinées. Mais Boris Johnson s'est tout de même voulu rassurant. Il est convaincu que ce Noël sera meilleur que celui de l'an dernier, alors que plus de 50 000 personnes ont été testées positives ces dernières 24 heures. Des tests de masse sont organisés à Chelmsford, dans le nord-est de l'Angleterre, et à Nottingham, là où les deux cas du nouveau variant ont été détectés. Londres, Laura Calmus, France Inter.
Israël va même encore plus loin et ferme ses frontières à tout visiteur étranger durant les 2 prochaines semaines, dès ce soir minuit, le temps d'en savoir un peu plus sur ce nouveau variant. En France, 3 millions de personnes ont pris rendez-vous depuis jeudi pour une 3e dose, ouverte à tous ceux qui ont plus de 18 ans. Dans les centres de vaccination, comme un air de déjà-vu, avec une affluence record, illustration en Seine-Maritime, dans la salle des fêtes de Sotteville-lès-Rouen, Hugo Charpentier.
Direction le box numéro 4.
Vous laissez bien détendre le bras, madame. On y va ?
Ouais. Marion, 21 ans, reçoit sa 3e dose. Cette étudiante rouennaise n'a pas hésité une seule seconde.
Non, pas une seconde, parce que je pense que c'est important de protéger les autres avant tout et se protéger soi-même aussi pour éviter la propagation du virus.
La jeune femme a réussi à décrocher un rendez-vous aussitôt après les annonces gouvernementales.
Oui, avec Doctolib, après les annonces de Olivier Véran. Donc c'était compliqué, la plateforme elle était un peu saturée, mais après le soir, on a eu un rendez-vous plus facilement.
Et c'est donc logiquement que le nombre d'injections repart en flèche, comme l'explique Stéphane Bord, médecin généraliste et conseiller municipal délégué à la santé.
C'est complètement exponentiel, on est passé de 250 injections hier à 500 aujourd'hui. Et ça risque probablement d'augmenter. On sait maintenant qu'on est capable de monter jusqu'à 1000, probablement qu'il y aura besoin d'avoir des journées à 1000, parce qu'on voit bien que quand on met des créneaux de disponibilité sur Doctolib, et bien ces créneaux sont tout de suite pris.
Mais ces rendez-vous ne concernent pas seulement les doses de rappel. En ce moment, dans ce centre, 10% des injections sont réalisées sur des personnes qui étaient jusqu'à présent non vaccinées.
Hugo Charpentier de France Bleu Normandie. L'affaire Nicolas Hulot est-elle en train de déstabiliser les Verts? L'équipe de campagne de Yannick Jadot annonce que Mathieu Orphelin, leur porte-parole, a été mis en retrait pour sa proximité bien connue avec l'homme accusé de viol et d'agression sexuelle. Mathieu Orphelin affirme, lui, avoir dit dans la semaine au candidat écologiste qu'il souhaitait mettre fin de lui-même à ses fonctions compte tenu des difficultés de la campagne et de la non-adhésion à ses choix stratégiques. Et il affirme son soutien entier aux victimes.
7h05, un nouveau féminicide relance et pose deux nouvelles questions sur la protection des femmes en danger.
Une mère de famille de 44 ans a été tuée à coups de couteau au pied de son immeuble par son ex-compagnon. C'était vendredi soir à Épinay-sur-Seine. Il l'attendait en bas de chez elle. Cet homme de 51 ans, condamné en juillet dernier à 6 mois de prison ferme pour des violences et menaces commises contre la victime, avait été libérée le 17 novembre dernier. La mère de famille n'avait pas sur elle son téléphone grave danger, car elle ne savait pas qu'il était libre. Sylvaine Grévin, présidente et fondatrice de la Fédération nationale des victimes de féminicide, s'indigne.
C'est juste insupportable. Et à quoi sert dans ce cas-là le téléphone grave danger si finalement on ne prévient pas la victime, en gros, de la sortie de son agresseur préalablement? Cette femme n'aurait jamais dû mourir. Elle détenait justement un téléphone grave danger. Elle n'a pas été prévenue de la sortie de son agresseur, donc elle se retrouve quasi nez à nez avec lui et on sait ce qui s'est passé par la suite. Donc là, pour nous, il y a un dysfonctionnement. C'est pour ça que nous demandons d'urgence à M. Dupond-Moretti une commission d'enquête pour savoir pourquoi finalement cette l'auteur est ressorti au vu de sa dangerosité, sans bracelet électronique, et surtout qu'elle n'est pas prévenue de cet état de fait qui aurait probablement et certainement même sauvé la vie de cette femme. Donc nous, on demande des comptes, parce qu'on en a un petit peu marre vraiment de compter nos mortes.
Sylvaine Grévin, interrogée par Théo Cobel de France Bleu Paris. L'agresseur s'est rendu ensuite, après le drame, au commissariat d'Épinay-sur-Seine. Comment lutter contre les réseaux de passeurs? 4 jours après le drame de la mort de 27 migrants qui tentaient de traverser la Manche, une réunion se tient aujourd'hui à Calais autour de Gérald Darmanin avec les ministres en charge de l'immigration, les ministres allemands, néerlandais et belges. Les Anglais ont été écartés après la sortie de Boris Johnson demandant à la France de reprendre les migrants qui auraient réussi la traversée. Entre ici, José Joséphine, mardi, Joséphine Baker sera la 6e femme à entrer au Panthéon. Une femme noire, icône des années folles, américaine, bisexuelle, militante antiraciste et résistante. Dès 1939, elle avait dit « Je veux me donner à la France, faites de moi ce que vous voudrez ». Elle a été très active durant toute la guerre. Le Centre historique des archives dévoile son dossier de résistante en tant que sous-lieutenant de l'armée de l'air. Vous avez pu le consulter, Amélie Perrier.
Ce sont d'abord des documents rassemblés juste après la guerre pour faire valoir des faits de résistance, des rapports de haut gradés comme le général Billotte, très proche du général de Gaulle. Marion Souté, conservatrice du patrimoine, nous lit ce qu'il écrit pour appuyer la demande de Légion d'honneur.
Mademoiselle Baker est à mes yeux une ardente patriote qui, au détriment de sa santé, a mis sans compter son grand talent au service de la propagande française et des œuvres françaises. Elle a de plus, avec une intelligence exceptionnelle, utilisé ses relations internationales très nombreuses pour faire parvenir aux organismes qualifiés des renseignements très précieux pour la défense nationale.
Joséphine profite de ses tournées à l'étranger et des soirées mondaines pour recueillir des informations précieuses. Elle préfère au terme d'espionne celui d'honorable correspondante. Et en 44, elle va plus loin en s'engageant dans l'armée de l'air. On en trouve un récit dans un journal de marche de son unité.
Voilà, à la page du 6 juin 1944, il est décrit un accident. Son avion, au large de la Corse, a dû subir un amerrissage forcé et elle est secourue par quelques tirailleurs sénégalais qui se trouvaient à ce moment-là dans le coin.
Et à cette époque, l'implication de Joséphine est totale, nous confirme Marion Souté.
Joséphine Baker tenait vraiment à son statut militaire, et elle voulait être davantage reconnue comme une combattante qui chante que comme une chanteuse combattante.
Et c'est cette partie moins connue de sa vie qui a pesé lourd pour son entrée au Panthéon.
Journée spéciale sur France Inter aujourd'hui avec notamment à 7h50 Catel, auteur d'une BD sur Joséphine Baker et d'autres pionnières.
Oui, et puis à 13h20, Histoire 2 avec Patrick Boucheron, l'atelier de Vincent Josse également à 15h consacré à Joséphine Baker. Merci Christelle Robière pour ce journal. Vous revenez à 8h, le temps.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski, la vigilance orange est maintenue dans 11 départements.
Oui, 11 départements de montagne en raison des chutes de neige encore prévues aujourd'hui sur le relief des Alpes, du Massif central et des Pyrénées, de l'ordre de 20 à 40 cm à partir de la très basse altitude, donc 300 ou 500 mètres. Et globalement, la situation reste hivernale sur le pays, dans des températures sans grande variation par rapport à hier. Côté précipitation, les régions de la façade atlantique vont retrouver un temps sec au fil de la journée, mais plus à l'est, une fois passé un axe Normandie-Charente-Quercy, là les averses, parfois mêlés de flocons jusqu'en plaine, vont marquer la journée. Et puis autour de la Méditerranée, retour d'un temps progressivement plus sec et plus dégagé. Reste à parler du vent de secteur nord-ouest, assez fort à fort, même jusqu'à 100 km à l'heure du golfe du Lion à la Corse et entre 60 et 80 sur le reste du pays.
Jean-Michel Golinski, Météo France.